problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'ai remarqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur. Dedans. Avec des si, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
23h, c'est la dernière heure de cet after du 27 décembre. On va discuter, on va parler des championnats étrangers. Il y a eu de la Premier League avec tout à l'heure la victoire de Wolverhampton 3-2 face à Manchester City. On va parler également d'Italie puisque Zlatan Ibrahimovic à 38 ans revient dans le championnat italien. Il revient au Milan AC, des couleurs qu'il a déjà portées. Et puisqu'on parle d'Italie, on parle forcément avec Simone Rovira.
Oh là
ciao.
Là.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut Simone.
Ciao Simone.
Comment ça va?
Ça va pas mal et toi?
Bah, très bien.
Petite journée au parc, retour. J'ai vu.
Quoi?
J'ai vu des petites journées au parc avec ta fille et tout, ça va? On se la coupe tous.
On a fait des bonnes journées, c'est Noël, on profite, on passe des temps en famille et c'était bien.
Simone, juste avant de parler de Zlatan, j'aimerais l'avis des consultants autour de cette table et le tien. Thiago Motta avec le Genoa, c'est officiellement terminé. Comment est-ce que tu peux nous refaire un peu le film de cet échec, puisqu'échec il y a?
Oui, c'est sportivement, c'était pas une réussite. Après, il faut voir les choses aussi dans son ensemble. David Nicola va devenir le 7e entraîneur dans les derniers championnats et demi du Genoa. C'est pas un métier qui a une longue vie être entraîneur au Genoa.
Cet entraîneur en 18 mois?
Cet entraîneur depuis le début du dernier championnat. Il a eu 3 l'année dernière.
Pas le Demarquita peut se rhabiller.
6 entraîneurs, désolé.
Oh, ça va mieux.
On va rassurer, ça fait 3 mois de moyenne.
3 l'année dernière, on est déjà à 3 et on n'est même pas metté des championnats cette année. Donc, peut-être que je prévois l'avenir en disant 7. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une réussite, une seule victoire en championnat. Une victoire aussi en Coupe d'Italie, mais quand même, la moyenne des points a été très très faible. 6 points, 9 matchs de Serie A. Une Paris qui, comme je disais, n'a pas réussi parce que Thiago Motta cherchait d'installer son équipe avec un jeu, avec un système de jeu, avec de la possession, avec des sorties de balles de la défense. Et même ses joueurs, parfois, peut-être n'arrivaient pas à faire ce que les coachs voulaient. Il essayait, mais il y avait vraiment beaucoup de déchets techniques. Il faut considérer que les Genoa, c'est une équipe qui s'est sauvée à la dernière journée la saison dernière avec une seule victoire en 2019 et a été renforcée entre guillemets avec un grand nombre de football comme la Sechenay qui n'a pas été à la hauteur pour ses premiers mois de son expérience, ses attentes et par 3 joueurs qui arrivent d'équipes qui sont descendues la saison dernière. Donc c'était pas une équipe très forte la saison dernière, n'a pas été vraiment renforcée. Et aujourd'hui, avec les 3e entraîneurs, les Genoa va chercher une maintien qui semble compliqué. On rappelle, c'est la lanterne rouge de la Serie A. T'as vraiment essayé de faire ce qu'il a fait avec les jeunes du PSG la saison dernière. Faire du jeu, faire de la possession. Imaginez que le seul match où Thiago Motta n'a pas eu plus de possession que l'équipe de Thiago Motta n'a pas eu plus de possession que l'équipe adverse, c'est dans les matchs nuls face au Lecce où ils ont terminé à 9. Donc
effectivement.
Voilà, ça n'a pas pris, mais ça a pris dans les vestiaires pour ce que sont mes informations. Mais après, il faut faire des points.
Messieurs, autour de la table, on est d'accord que il y a pas de profil type d'entraîneur. Zidane et Deschamps sont deux grands entraîneurs. C'est pas du tout le même genre de personne. Quand on voyait Thiago Motta sur un terrain, on avait quand même tendance à penser qu'il avait ce truc-là, qu'il était capable de fédérer une équipe derrière lui. Vous êtes surpris de cette échec?
Non, moi je suis pas surpris que des novices se plantent avec des équipes professionnelles de très haut niveau. Je pense qu'ils doivent peut-être songer, ou ceux qui défendent leurs agents, à commencer d'un peu plus bas et de gravir les échelons au fur et à mesure. Je pense que tout le monde n'est pas Zidane.
Regarde, Laurent Blanc qui est novice, qui prend Bordeaux, ça fonctionne. Je pense que là, dans le cas de Thiago Motta, je pense que ça deviendra quand même un très bon entraîneur. Mais que là, la situation au Genoa était trop compliquée. Quand tu regardes l'effectif, ça manque réellement de qualité. Et je pense que le petit défaut qu'il a eu en arrivant au Genoa, c'est qu'il n'a pas cherché assez à adapter son plan de jeu aux joueurs et à la qualité des joueurs qu'il avait à sa disposition. Plus à imposer ses idées frontalement, alors qu'il n'avait pas le matos pour les mettre en place.
Bah, au-delà de ça, surtout, c'est quand tu passes de la carrière de joueur, à la carrière d'entraîneur, il faut être prêt. Mais pas être prêt uniquement sur tes choix de jeu, sur ton projet de jeu.
Oui, ça c'est très clair pour lui, je pense.
Voilà, ça il le sait, bien sûr. Mais ce que je veux dire,
profil de manager.
Voilà, au bout d'un moment, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut grandir en tant qu'être humain, il faut passer à autre chose. Ouais. La carrière de joueur, c'est terminé. Et il y a tellement, je peux vous dire, entraîneur, c'est un métier qui est très difficile. T'as plus de temps aujourd'hui. On voit 9 matchs, t'es déjà viré, même si t'as un projet qui est magnifique.
Alors, il y a Genoa, visiblement, on est sur
d'autres. Mais c'est vraiment pas simple à
passer par la transition. Simonet, le Genoa, c'est un bourbier.
C'est un
bourbier.
Un piège.
C'est un piège. La situation était merdeuse. Si je peux parler un peu trop.
Bah, les seuls entraîneurs qui a réussi dans les 10 dernières années à Genoa, c'est Gasperini.
Gasperini,
parle de l'entraîneur qui est en train de faire des miracles à Bergame pour quelqu'un a perdu les noms. C'est l'entraîneur de l'Atalanta qui a mené en 8e des finales de Ligue des Champions et 4e la saison dernière. Et avec des belles saisons aussi dans les dernières années avant d'arriver en Ligue des Champions. Donc, Genoa, c'est. Je vous dis un chiffre. Si celle que je sais, c'est que Preziosi, dans les 10 dernières années, a fait environ 190 millions de plus-value avec ses joueurs. Ouais. C'est un président qui achète, qui revend. C'est en janvier dernier, il avait une Piontek à 35 millions au Milan. Peut-être c'est l'excellent affaire parce qu'aujourd'hui Piontek ne met pas un pied devant l'autre.
Ouais. Il a mis 4 buts.
Mais après avoir vendu ses joueurs, il est arrivé à se maintenir à la dernière journée avec un 0-0. On peut dire très très qui a rangé tout le monde face à la Fiorentina qui s'est maintenue aussi. Donc
Simon, dans ce que tu as dit par rapport au Genoa, tu as dit que tu avais eu plutôt vent que dans le vestiaire ça se passait bien entre l'équipe, le coach. Tu as parlé de la possession du Genoa qui était quasiment régulière toute la saison. Donc si en plus de ça, l'alchimie entre le manager Thiago Motta et ses joueurs a pris et qu'il a réussi malgré un matériau de mauvaise qualité à ce que l'équipe joue un peu comme lui voulait et que ça ne marche pas, c'est que vraiment vraiment t'as un déficit qualitatif de joueurs, donc tu peux mettre n'importe quel entraîneur, ne marchera pas au Genoa.
Ça on les verra.
Il n'a pas de baguette magique, Thiago Motta, encore moins comme il est novice.
Ça on les verra peut-être. Moi, sûrement, j'ai vu tous les matchs, j'en ai vu, je pense, 7 sur 10 au stade, donc j'ai vraiment suivi beaucoup des performances de Motta, et c'est vrai qu'il y a eu des échecs techniques dans certains joueurs, mais après c'est je veux pas jeter un peu dire la faute sur les joueurs pour défendre Thiago Motta, mais j'ai vu aussi plusieurs matchs l'année dernière au Camp des Loges de U19, et parfois il y avait des erreurs techniques que j'ai pas vu avec les jeunes qu'avec l'équipe du Genoa, mais je pense aussi que la pression qui pour l'équipe qui joue les maintiennes, c'est différente. Des jeunes jouent beaucoup plus relaxés parfois, et là il y avait une équipe qui était dans la tête du président et peut-être de certains joueurs était bâtie pour jouait beaucoup plus haut au classement. L'arrivée des Chenets avait fait rêver vraiment beaucoup les supporters. Après, on s'est rendu compte que peut-être Chenet était bien habitué à l'Ajax avec une qualité énorme à côté de lui. Et quand à côté de lui, il y avait une qualité inférieure, c'était compliqué. Comme je répète, entre les joueurs titulaires cette année, il y avait Pinamonte, qui c'est un très bon jeune, qui était prêté à Frosinone la saison dernière, qui est descendu. Cassata, qui était remplaçant à Frosinone, qui est descendu et qui était titulaire au Genoa. Payaz était remplaçant à Empoli, qui est descendu et était titulaire au Genoa. Il y avait vraiment des joueurs qui ont coûté très peu pour être probablement revendus. Ça n'a pas marché cette année. On l'a vu même à Monaco. C'est un style et un club différent. Mais quand on fait beaucoup de trading avec les joueurs, parfois c'est pas. Oui. Ça arrive une année où rien de bon enchaîne. Et la seule solution, c'est d'échanger l'entraîneur. Et si l'entraîneur n'est pas prêt ou n'est pas bon en ces moments pour relever les défis, les choses vont mal. Moi, je pense que Thiago va devenir un très bon entraîneur. Il a relevé un défi énorme. Il ne l'a pas gagné. Rien n'empêche que pour moi, dans l'avenir, il aura d'autres occasions de montrer son niveau qui, pour moi, ça va être très intéressant pour nous, pour le suivre et pour l'équipe où il sera entraîneur.
C'est noté, Simonet. Alors, venons-en au sujet du moment en Serie A. Nos confrères de la Sky ont quasiment fait du non-stop, un suivi en continu des affaires, des arrivées, des atermoiements, des derniers détails de l'arrivée de Zlatan au Milan AC. Cette fois, c'est fait. Est-ce que tu peux nous raconter les 24 dernières heures? Et puis, voilà ce qui se dit un petit peu en Italie quant au retour de Zlatan dans une équipe où il y a déjà pas mal d'attaquants.
Alors, déjà, tu parlais de nos collègues de Sky. Je peux vous dire que depuis l'horaire de l'officialité de l'arrivée des Zlatan, c'était à l'entour de 18h30, il y a les bandeaux de la breaking news sur Sky qui tournent en continu avec Ibra va revenir au Milan, la date de la visite médicale qui c'est le 2 janvier, les premiers mots de Zlatan qui est je reviens dans la ville que j'aime et je vais lutter pour chercher de changer la situation, donc la saison. Donc c'est vraiment la grosse info, on peut dire qu'il y a un couverture comme ça de l'info, ça me rappelle l'arrivée de Cristiano. Zlatan en Italie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est l'attaquant hors norme de ces 10 dernières saisons, dans le foot, même plus, 15 dernières saisons en Italie, entre l'Italie et l'Europe, a été suivi quand il était au PSG, comme si c'était un joueur de Serie A. Il avait fait devenir les PSG, les 21e club de Serie A. Zlatan qui revient en Italie, c'est vraiment l'info pour moi en ce moment de l'année. Pour vous expliquer les contextes généraux.
T'as raison, Simonet.
Les 24 dernières heures, c'est que depuis qu'on a su que Zlatan allait accepter cette proposition de Milan, on rappelle, c'est une proposition de 6 mois de contrat, il y aura une option, mais qui apparemment n'est pas liée aux performances sportives ni de Zlatan, ni du Milan, donc pas 4e place obligatoire pour prolonger les contrats. Il y aura des évaluations qui vont faire les deux parties à la fin de la saison. Et on va découvrir quelle va être l'option. On peut, je pense, dans les prochains jours, pour comprendre quelle sera la condition qui fera devenir cette mariage des 6 mois, mariage des 18 mois. Donc, 3 millions nets de contrats jusqu'à la fin de l'année. Et après, on verra. Les 24 dernières heures, c'est Zlatan à la une partout, les journaux aujourd'hui, les sites, vraiment les chaînes télé qui parlent que de Zlatan, les chaînes télé sportives bien sûr, mais il y a un intérêt total sur l'arrivée d'Ibrahimovic. Et il y a une émotion partagée. Il y a beaucoup de supporters qui sont heureux parce qu'ils revoient un peu une petite partie de la grandeur ou de la fin de la grande époque de Milan, et une partie qui imagine une deuxième de la partie des saisons qui va être meilleure. Il y a aussi quelqu'un plus réaliste ou quand même moins qui est moins les étoiles un peu moins dans les yeux et qui voit une situation quand même compliquée de Milan. Il y a un sondage sur le site de la Gazzetta dello Sport et je pense que 60% des personnes disent aujourd'hui Milan avait besoin d'autre chose que de Zlatan, c'est-à-dire
justement,
un milieu de terrain, des défenseurs.
Ouais, mais Simonet, ouais, franchement, l'effectif, il n'est pas dégueulasse quand tu le regardes. L'effectif du Milan.
C'est un effectif qui a des très bons joueurs pour moi, qui a certains très bons joueurs, qui a certains très bons jeunes aussi. Au-delà de ça, il manque énormément pour moi des personnalités. Il manque un vrai leader. Il n'y a pas un leader sur le banc des touches, avec tout le respect que j'ai pour Pioli, qui c'est un travailleur, qui c'est quelqu'un qui fait obtenir des bons résultats à ses équipes, qui arrive
à. Tu ne fais pas rêver, quoi.
Non, mais Pioli, c'est quelqu'un qui a un objectif, et généralement, il va y arriver. Aujourd'hui, l'objectif du Milan, on ne sait pas quel est, parce que c'est pas la Ligue des Champions, parce qu'il y a 15 points de retard, 11 points de retard, si je ne me trompe pas, sur la quatrième place. Il a la moitié du point de l'Inter. Milan est à 21, l'Inter est à 42. Donc, rêver du titre aujourd'hui, c'est hors de question. Pioli fait un bon travail. Mais ce que manque aujourd'hui, c'est un leader sur le terrain et dans le vestiaire. Et Zlatan, première chose, doit être ça. Après, peut-être les buteurs, on parlait des Piontek. Un buteur, il n'y a pas aujourd'hui à Milan quelqu'un qui est capable de résoudre les situations compliquées toute seule, capable de faire gagner des matchs de 0-0 avec un coup de génie ou un prof de force, et Zlatan. Et tout ça, j'ai regardé un peu ses stats. Bien sûr, les États-Unis, c'est notre championnat, mais c'est quelqu'un qui reste sur 14 buts sur les 10 derniers matchs, une chose comme ça, c'est des stats incroyables, 4 passes décisives, et les derniers matchs, bien sûr, c'est octobre, donc c'est quelques mois des vacances, mais c'est pas un joueur qui ne joue plus depuis deux années,
on sait aussi que c'est un professionnel et qui s'entretient. On a Sébastien qui a fait le 32-16 pour nous rejoindre. Sébastien, il est supporter du Milan AC. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Sébastien. Ciao. Sébastien, charmé, ils ont mis des paillettes dans ta vie, les dirigeants du Milan AC, ou alors plutôt déçu?
Non. Bah déjà, ce club, je le supporte depuis tout petit, depuis le début de l'ère Carlo Ancelotti. Donc je vais rebondir. Donc en effet, oui, Zlatan, c'est un grand professionnel. Cependant. Voilà, aux États-Unis, la référence n'est pas non plus officielle. Donc ça, il faut aussi le dire. Ensuite, je suis désolé, mais un joueur qui était à la Juve et à l'Inter, pour moi, je ne sais pas comment il fait pour atterrir au Milan.
Ah, il y a une incompatibilité de supporters pour toi.
Comment ?
Il y a incompatibilité en termes de club. Être passé par l'Inter, c'est rédhibitoire pour un joueur.
Non, mais pas forcément. Là, il a fait les deux en l'occurrence.
Oui, non, mais il a fait les deux. Mais tu le vois revenir et ça te choque.
Non, mais surtout que Zlatan, sa meilleure période, là où il était au top, c'était à l'Inter.
Oui.
Vraiment. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord à la table.
Ah, la Juve, c'était pas mal aussi quand même.
Il fait quand même meilleur buteur chez
vous. Oui, c'est pas mal. Après, à l'Inter, c'est là où il s'est vraiment révélé au mieux.
Non, mais t'es content ou pas alors qu'il arrive? J'arrive pas bien à comprendre ce que tu veux nous dire, parce que si on fait l'histoire de Zlatan et puis des clubs par lesquels il est passé,
toujours
ne serait-ce que ce qu'il est en train de faire avec ses investissements en Suède, là, avec Hammarby au lieu de Malmö qui est son club formateur. Ok, mais là, il arrive au Milan AC. Bonne nouvelle?
Alors j'y viens, donc j'ai préparé quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse pour le recrutement du Milan AC, c'est un attaquant polyvalent qui soit au sein du collectif et pour longtemps. Alors Kibra, c'est plutôt une individualité, un gros salaire et un mec de passage.
À très court terme.
Il en a rien à carrer que ça aurait pu être le Milan AC, l'Inter Milan ou ce qu'on veut. De toute façon, lui, c'est un opportuniste.
Ouais,
en soi.
Il a quand même dit que le Milan, c'est un
mec. Mais il s'en fout, il a dit ça partout où il est passé.
Non, il a jamais. Il a dit ça depuis PSG.
Il est toujours avec
PSG, la seule chose qui lui manque, c'est son salaire.
Mais même.
Il est toujours avec sa femme.
Bien sûr, oui.
Parce que sa femme avait adoré Milan. Donc il y a peut-être quelque chose. C'est dans sa biographie, elle avait
quitté vraiment. Lui, il a toujours dit que c'était le Milan AC qui est le club où il avait préféré jouer.
Donc Sébastien, globalement, pour toi, Sébastien, c'est peut-être un coup de com, ça va peut-être être un coup commercial, ça va peut-être vendre des maillots, mais ça ne fera pas progresser ton Milan AC.
Et puis je rajouterais qu'en plus de ça, c'est un joueur de fin de carrière. Donc de par tous ces arguments, Donc d'après moi, c'est pas bon. Il répond pas à mes attentes. Mais encore une fois, sa carrière n'a rien à voir là-dedans.
Ben voilà, moi je suis pas d'accord et je suis pas d'accord avec toi Damien pour une bonne et simple raison, c'est que ok sur la fin de carrière, bon c'est des données objectives hein, et il est plus au bout qu'au début. En revanche, je pense que c'est un joueur qui est beaucoup trop orgueilleux pour arriver dans un club. Et un club comme le Milan AC qu'il a fréquenté et comme Simone l'a dit, il a effectivement participé comme ça aux dernières lumières du club. Enfin, les dernières, c'est pas terminé, hein, ça reviendra. Mais les dernières récentes lumières de ce club pour arriver comme ça et faire du shopping avec sa femme dans les boutiques milanaises et puis un petit peu participer, apporter son grain de sel au Milan AC. Non, je pense que c'est un plus pour le vestiaire, c'est un plus pour le jeu de cette équipe. Les statistiques de la MLS sont pas des statistiques méprisables par rapport à ce que Zlatan en a fait. Voilà, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Après oui, on est sur le court terme et il faudra pas que toute la stratégie sportive du Milan AC, et je pense pas que ce soit le cas, en tout cas je l'espère, nous repose sur les épaules de Zlatan Ibrahimovic.
Tu parlais d'orgueil, on a la l'image de Zlatan sur son Twitter pour annoncer son arrivée au Milan AC. Lui est dans une toge façon Messi, pas le footballeur mais façon Messi de religion, et il est en train de faire un bras de fer avec un démon. Same Zlatan, different devil. AC Milan, arrivo. Encore une fois, c'est...
Ça, alors, personnellement, ça va se faire. Mais voilà, c'est se tromper de chemin.
C'est se tromper de chemin, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Messieurs, tu parlais d'un joueur orgueilleux. Un joueur orgueilleux, il n'a pas envie de rater son final, il n'a pas envie de rater sa sortie. Est-ce que tu le crois capable de changer un peu sa façon d'être et d'encadrer les jeunes, d'être ce leader pour que la dernière expérience, que tout le monde dise, il est éternel et il n'aurait jamais dû partir?
Je pense qu'il a même pas besoin de les encadrer. C'est les jeunes qui arriveront et qui vont boire ces rares paroles. C'est un joueur qui a aussi une dimension charismatique, un homme qui a une dimension charismatique qui s'impose à tout le monde et à tous les étages du club. Donc, je redis que son orgueil ne lui fera pas faire une saison de trop. Donc, s'il arrive à Milan, même si Mino Raiola gère bien ses affaires, mais s'il arrive à Milan, c'est qu'il pense qu'il peut lui faire quelque chose pour lui, parce que je suis aussi d'accord quand Damien parle d'opportuniste, mais que c'est intéressant pour les deux parties, mais sur le court terme. Mais le Milan AC, on a besoin, là. Quand même pas voir un des grands clubs de l'Europe continuer comme ça à se morfondre.
Damien, quand on voit arriver un joueur avec un tel ego qui va forcément vampiriser médiatiquement tout le reste de l'équipe, comment ça peut être perçu? Est-ce qu'on peut prendre exemple aussi? Parce que Zlatan, oui, il a une communication qui parfois fait saigner les oreilles de certains, mais qui quand même est un grand pro, qui a réussi de grandes choses dans sa carrière. Voilà, est-ce qu'il peut être inspirant?
De toute façon, ce sera sur le terrain, parce qu'au bout d'un moment, tu peux t'appeler Zlatan. Si sur le terrain, t'es pas bon et que tu te mets au niveau des attaquants actuels du Milan AC, le respect, il l'aura pas. Et même s'il pourra faire le caïd ou ce qu'il veut dans le vestiaire, au bout d'un moment, ce sont les performances sur le terrain. Ça va juste un temps, en fait. Pendant un mois ou deux, tu peux faire semblant. Après, mais c'est terminé.
Oui, mais
franchement, quand on regarde la composition de l'effectif du Milan AC, il y a quand même des joueurs de qualité. Quand tu vois leurs performances, j'ai vu notamment la rousse qu'ils se sont pris contre l'Atalanta, le 5-0. Tu te dis qu'en fait, le problème principal de cette équipe, c'est avant tout, je pense, un problème de motivation et de mentalité.
Confiance.
Oui, et de confiance aussi. Et je pense qu'un mec comme Zlatan, même si on le critique beaucoup, parce que médiatiquement, il va faire le même cirque comme à chaque fois. Moi, je pense, ce dont on sait de lui, c'est que dans un vestiaire, c'est quelqu'un d'hyper important. C'est quelqu'un qui recadre les jeunes. Rappelez-vous, au Paris Saint-Germain, les coups de gueule qu'il avait poussés pour que les potes de Kurzawa arrêtent de venir à l'entraînement, par exemple. C'est quelqu'un qui aime bien, qui n'aime pas, qui ne supporte pas quand des choses ne sont pas ultra carrées dans la vie quotidienne d'un groupe. Et je pense que ça peut être une très très bonne chose, et je dirais même que voilà, un des reproches qu'on a souvent fait dans la carrière de Zlatan, c'était de dire qu'il bonifiait pas forcément ses coéquipiers. Là, je pense que dans le contexte milanais à l'heure actuelle, je pense qu'il peut leur faire vraiment du bien et permettre à des joueurs qui comme Souza, comme Leao ou des jeunes qui comme Conti, qui sont pas non plus les plus grands pros, de passer un cap et de se remettre la tête à l'endroit.
Parce que c'est un joueur qui t'entraîne pas par sa pédagogie, il en a pas. C'est un joueur qui t'entraîne par son charisme. c'est beaucoup plus fort encore. Et oui, s'il finit sur le banc, effectivement, t'es un grand joueur, mais quand t'es remplaçant, ben les mecs ils t'écoutent plus. Mais je pense, Damien, qu'il a encore au moins, allez, 6 beaux mois à Milan, voire plus. Ouais. Simone a parlé d'un contrat possible de 18 devant lui. Parce que ces statistiques en MLS, et tu vas pas me contredire, c'est loin d'être des statistiques
importantes. Ouais, bien sûr, mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui compte en premier. Je veux dire, ce sont ses statistiques à lui, le Milan AC. Si ça marche et qu'il est associé à ça, ça ira. Mais je veux dire, c'est d'abord sa personne qui va compter par rapport au collectif. Voilà où je veux en venir. Le Milan AC, je dis pas qu'il en a rien à foutre, mais il va jouer là-bas pour briller, lui, et bien finir, pas pour aider le Milan. Faut pas me faire rêver, faut pas rêver.
Simone, un dernier mot.
Les choses sont liées quand même.
Un dernier mot avec toi. Il y a peut-être, là, on parlait beaucoup du sportif, il y a peut-être un gros coup financier. Le retour de Zlatan à Milan, c'est une assurance de vente des maillots, c'est redorer quelque chose pour le Milan AC.
Bah, c'est remplir un peu plus un sirop, bien sûr. C'est aussi au niveau d'image. Pour vous dire, moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire du mercato en regardant les accounts réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, dans la double page sur la Gazzetta dello Sport pour les retours de Zlatan, dans l'article, on pouvait lire que entre les bons points du retour de Zlatan, c'est le fait que aujourd'hui sur Instagram, Ibra a 40 millions de followers et l'account Milan italienne et n'a seulement 6,7 millions. Donc aujourd'hui Zlatan c'est aussi une marque très très forte. Milan a perdu un peu aussi sa marque internationale et si l'arrivée de Zlatan peut aider un peu à redorer l'image de ce club et cette équipe, c'est bien. Après aujourd'hui la force de Zlatan c'est que pour les prochains 2 mois, je peux dire au moins 2 mois, on va se concentrer que sur Zlatan.
Et pas sur les problèmes du Milan,
à Milan, à se mettre un peu à l'ombre de toutes les polémiques et de tout la. Parce que quand tu mets de la lumière sur Milan cette saison, c'est parce que les choses vont mal. Il n'y a pas eu de lumière positive sur Milan, sauf les exploits de Théo Hernandez. Sinon, il y a eu vraiment, vraiment que la lumière pour les défauts de ces Milan. Aujourd'hui, tu as cette parapluie énorme de Zlatan qui arrive à couvrir un peu tous les défauts pour quelques mois. On va voir quel va être l'impact de Zlatan. Mais je vous dis que pour arriver à Milan, Zlatan a dû accepter, mais il a fallu du temps pour se décider. T'sais, Milan, ça fait des mois qu'il cherche de convaincre Zlatan à accepter les projets. Lui, il n'était pas convaincu 100%. Peut-être il a attendu aussi de voir s'il y avait des choses qui se développaient à côté. Quand Ancelotti était au Naples, c'était une possibilité concrète. Pour moi, ça aurait été peut-être aussi la meilleure pour Ibra de revenir dans une grande équipe qui joue à la Ligue des Champions. C'est pas fait. Aujourd'hui, il s'est retrouvé peut-être avec la seule option concrète, Milan. Il devait accepter s'il continuait à jouer ou se retirer. Je pense que s'il acceptait vraiment, c'est parce qu'il a encore quelque chose à donner. Et là, bon, on peut faire beaucoup des hypothèses sur ça, mais dans quelques jours, 2 janvier, passe la visite médicale, 6 janvier, premier match de Milan. On verra. Ça manque très peu.
Merci beaucoup, Simone, d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de signature de Zlatan au Milan AC. Et donc, effectivement, le premier but de Zlatan avec le Milan AC, ce sera le 6 contre la Sampdoria, pour la bonne et simple raison que Zlatan marque systématiquement.
Contre la Samp ?
Non, systématiquement lors de son premier match avec ses clubs.
D'accord.
Il avait marqué et il l'a fait aux États-Unis, il l'a fait avec le PSG.
Contre Malmö, tu peux nous retrouver contre qui il a marqué ?
Je ne te retrouverai pas contre qui il a marqué, en tout cas peut-être après la pub, grâce à l'oreillette. En tout cas, on revient dans un instant pour vous parler de football anglais et de la défaite de City face à Wolverhampton. C'est avec Julien Laurence. Et puis, vous nous appelez au 32-16 pour participer au quiz de l'After. A tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Timothée Mémon.
23h31 de retour dans l'After pour la dernière ligne droite de cette émission. On va parler de Première Ligue à présent. Tout à l'heure, ce sera le quiz de l'After. Vous nous appelez au 32-16 pour participer. Avant cela, on va donc parler de la Première Ligue anglaise. Messieurs, ce soir, les Citizens de Manchester se sont inclinés 3-2 face à la formation de Wolverhampton. Messieurs, il y a une stat qui est tombée sur RMC Sport avec 37,8% de possession de balles. Certes, avec une bonne partie du match à 10 contre 11, eh bien Pep Guardiola connaît le pire record de son histoire depuis qu'il est à la tête des Citizens en Première Ligue. 14 points de retard sur Liverpool. Est-ce que pour vous, il y a une cassure? Est-ce que cette formation de City n'arrive plus à suivre les ordres de Pep Guardiola?
C'est pas ça le problème. Bon, déjà le titre c'est fini, hein. Liverpool est champion, ça on le dit depuis des semaines. Le problème c'est que ils ont dépensé beaucoup d'argent pour s'offrir des défenseurs, mais c'est que ils ont toujours pas trouvé la bonne formule et que cette équipe sera irrémédiablement limitée de par la qualité très moyenne des centraux qu'ils ont à leur disposition.
Ouais, pour rebondir sur ce que dit Jonathan, de toute façon quand t'es Guardiola et que tu joues haut sur le terrain, tu peux pas te permettre d'avoir Fernandinho et Otamendi pour gérer la profondeur. Il y a qu'à voir au jour ce soir la manière dont Ederson est expulsé. Il essaie de couvrir sa défense centrale qui est franchement apathique sur un ballon simple en profondeur. Ça a été le cas aussi
plein axe.
Pour Vardy. Quand avec Leicester, le but de Vardy, c'est exactement ça. Il met à la rue Fernandinho en vitesse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il change son fusil d'épaule et mettre d'autres joueurs à ces postes-là.
Il menait à la 82e les Citizens. Est-ce que mentalement, on parlait de cette course au titre qui semble être pliée, est-ce que là aussi l'équipe a lâché un petit peu en championnat, ce qui est champion l'année dernière, ils semblent savoir qu'ils ne seront pas cette année?
Ouais, je pense. Après, je pense aussi que bon, là, c'est sûr qu'ils ont quand même eu un petit matelas d'avance sur le cinquième et le sixième. Et je pense qu'ils vont tout mettre sur la Ligue des Champions. Ils ont compris, là, Liverpool est intouchable en championnat.
Non, attends, oui. Voilà, ça va finir deuxième. Ce sera déjà très bien, je pense, parce qu'ils
deuxième
sont
largement. Troisième, attention non, à Leicester.
Ils sont largement au-dessus de Leicester. Il n'y a pas eu photo sur le match qu'ils ont joué dernièrement. Mais, au bout d'un moment, va falloir que Guardiola aussi regarde un peu ce que font les adversaires et pas toujours s'obstiner sur son style de jeu, son schéma de jeu à lui. Et peut-être prendre en compte parfois l'adversaire.
C'est sa signature. C'est sa signature. Et tu parlais d'un entraîneur qui ne doit pas se renier. Et lui, comme n'importe lequel, peut-être encore moins que les autres, il ne va pas se renier. C'est une équipe City qui a été avec Guardiola en permanence à la limite du déséquilibre. Mais avec la possession de balle, avec la qualité offensive, ça arrivait à compenser et à masquer certaines faiblesses. Bon, ils ont perdu la porte aussi, mais défensivement, ça n'a pas été une équipe qui a été une équipe impressionnante dans ce championnat d'Angleterre.
Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'histoire de se renier en tant qu'entraîneur, c'est pas ça. Il y a quelques mois, j'ai lu une exceptionnelle interview de Louis van Gaal dans France Football et qui disait justement. Après les Bayern et après tous les succès qu'il a eu en tant qu'entraîneur, il a vraiment été meilleur entraîneur pour lui, en tout cas à Manchester United, quand il a commencé à prendre en compte ce que pouvait faire l'adversaire aussi. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai, quand on est entraîneur, on a tous la science infuse en se disant « Allez, de toute façon, c'est ma manière qui doit gagner, et ainsi de suite, et je ne vais pas déroger à cette règle. » Encore, hein, je suis pas le mieux placé pour parler, hein, je suis jeune dans le métier, tout ça, mais au bout d'un moment, t'es obligé de faire attention au point fort de l'adversaire.
Après, il faut pas non plus oublier tout ce qu'il a réussi à faire, hein, les titres qu'il a gagnés avec l'Angleterre. Moi, je veux juste voir sur la suite de sa saison, donc je pense que l'objectif du moins, c'est la Ligue des Champions, et je le répète, c'est rédhibitoire d'arriver en Ligue des Champions avec une telle charnière centrale, et faut pas oublier qu'en fait, une des forces du FC Barcelone, lorsqu'il les entraînait, c'était quand même d'avoir une charnière de très haut niveau, c'était Piqué, Puyol. Il a jamais réussi à avoir une charnière aussi forte que ce soit au Bayern ou à Manchester City. Et je pense que ses difficultés en Ligue des Champions viennent de là. Alors c'est pas faute d'avoir investi. Ils ont pris Stone qui sont payés
une blinde.
Laporte, bon, s'est blessé, mais bon, voilà. Je pense que s'il y a une retouche à faire au mercato, elle doit être faite et c'est au poste de défenseur central si tu veux pas faire une seconde manche.
Ben c'est très compliqué de la faire, de la réussir cette retouche, parce que avec le style de Guardiola.
Il arrive en hiver, Van Dijk.
Pour Liverpool, oui, mais c'est toujours les exceptions.
Il arrive en hiver.
Non, mais si on parle des exceptions, on peut toujours en trouver, mais c'est une retouche compliquée avec le style dont on parle de Guardiola, ou quand on cite la charnière Puyol-Piqué, c'est aussi des joueurs qui, outre l'aspect technique, mais qui gèrent la profondeur comme personne. C'est-à-dire des joueurs, des défenseurs avec ce QI-là d'intelligence de jeu, de tactique. Sur cet hiver, là, je vois pas où tu peux les trouver.
Il arrive ici et il joue en hiver.
Mais c'est
86 millions, je
crois. Non, mais c'est impératif. C'est impératif parce que sinon, ils vont passer à côté de leur saison et ça serait quand même dommage parce que c'est quand même une super équipe à avoir joué.
Il va y avoir une nouvelle journée qui va commencer 48 heures seulement entre les matchs pour certaines équipes, moins de 48 heures pour certaines, 46 précisément. Alors ce sera pas demain, mais après-demain, il y a un Arsenal-Chelsea. On attend de voir Arteta face à un gros, face à Chelsea. Est-ce que l'effet Arteta peut déjà avoir lieu, ou alors est-ce que c'est un petit peu aller un peu vite en besogne?
Bah, de toute façon, cette période-là, c'est récupération, préparation de match, récupération, préparation. C'est donc, ça, ouais. T'as vraiment le temps de rien travailler. Et peut-être la veille de match, mais même pas, ils ont joué il y a quoi? Il y a deux jours, là.
Deux jours, ouais.
Donc, c'est vraiment la veille de match. Tu mets en place ton équipe et puis tu essaies de donner deux, trois consignes tactiques. De toute façon, les joueurs ne vont pas encore tout assimiler. Non, ce serait beaucoup trop facile.
On a déjà vu des choses intéressantes, quand même, dans ce qu'il a mis en place. La liaison, la relation technique entre Torreira et Özil, notamment, que j'ai trouvé assez intéressante. Le positionnement des latéraux. J'attends de voir, ça risque d'être un match assez intéressant.
Dans ce championnat où vraisemblablement Liverpool a tué tout suspense, on a la sensation quand même que là où ça va se jouer, là où ça va être plutôt tendu, c'est justement ces places européennes, puisqu'on a par exemple Newcastle avec 25 points et on monte jusqu'à la quatrième place, 32 points, seulement 7 points d'écart entre Chelsea et Newcastle, même un point de plus, ça fait 8 points avec
et Wolverhampton avec sa victoire ce soir,
qui monte à la cinquième
place.
Placé
aussi, ouais.
Il risque d'avoir une petite surprise, je pense, dans les quatre pour les Ligues des Champions.
Leicester.
Parce que
Leicester, tu l'as déjà.
Ouais.
Leicester, tu l'as déjà. Sans catastrophe, il devrait s'y retrouver. Donc City est le quatrième.
Chelsea. Derrière, il y a Tottenham aussi qui est pas loin, avec seulement 3 points de.
Ça va être l'intérêt. Ça va être l'intérêt de cette première ligue. Et une fois n'est pas coutume, va un peu ressembler à notre Ligue 1.
Exactement, j'allais le dire, avec un Paris Saint-Germain ultra écrasant. Wolverhampton, la bonne surprise de cette saison en première ligue.
Ouais, il y a qu'à voir, franchement, avec leur entraîneur portugais et des joueurs qu'on pensait cuits en France, comme Moutinho, hein, et c'est vrai, sur le visage qu'il avait montré à Monaco, où il semblait plus en fin de parcours. Mais même ce soir, hein, quand on les voit jouer contre Manchester City, ça calcule pas, ça essaye de prendre des espaces, d'aller de l'avant. Alors, encore une fois, le scénario du match est assez atypique, hein, avec le score de 2-0, le rouge. Mais on peut pas leur reprocher de fermer le jeu contre Manchester City et de se découvrir. C'est vraiment un jeu plein d'allants et qui est agréable à voir.
On vous invite à aller voir notamment les buts de Wolverhampton qui sont assez beaux, et celui de Adama Traoré, c'était notre fameux bodybuilder dont on parlait tout à l'heure.
L'ancienne petite starlette du centre de formation du FC Barcelone.
Il est hallucinant. Lui, en fait.
Ouais.
Il est hallucinant physiquement.
Il a bien bougé Benjamin Mendy sur le deuxième but de Wolverhampton.
Voilà pour la première ligue anglaise, une première ligue anglaise qui va continuer donc à partir de demain. Je vous le disais, avec à l'affiche des matchs importants à l'image.
Là j'ai les. Quand on parlait de City par rapport à la Ligue des Champions, ils vont jouer le Real Madrid quand même. La saison, elle peut être peut-être un peu annus horribilis.
Elle peut être un peu longue, ouais. Elle peut être un peu longue. Elle paraît déjà un peu longue en championnat, et le match de ce soir le confirme. Demain, donc, à 13h30, il y aura Brighton-Bournemouth. À partir de 16h, Southampton, Crystal Palace, Newcastle, Everton, Watford, Aston Villa, Norwich, Tottenham. Ça, ce sera à 18h30, tout comme West Ham, Leicester. À 20h45, Burnley, Manchester United. Et puis dimanche, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Wolverhampton et Manchester City, Sheffield United. Voilà pour les rencontres de Première Ligue que vous pourrez suivre évidemment sur RMC Sport et à la radio sur RMC tout au long du week-end. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour le quiz de l'After. On va jouer ensemble, on est nombreux autour de cette table. Vous nous appelez au 32-16 pour participer au quiz de l'After, c'est tout de suite.
RMC, l'After Foot, Timothée Mémon.
23h43, de retour dans l'After pour la dernière ligne droite pour le quiz de l'After. On accueille deux auditeurs, Léiane et Thomas, qui sont avec nous. Léiane est supporter de l'Olympique de Marseille. Léiane, bonsoir.
Bonsoir.
Léiane, tu as le choix, tu peux jouer avec François Manardeau, Damien Perrinel, Jonathan McCarty ou moi-même.
Alors, j'étais déjà passé une fois, j'avais joué avec Damien, donc cette fois je vais avec Jonathan.
Bah oui,
allez, à la bonne
Marseille. Léiane jouera donc avec Jonathan. Thomas, salut.
Bonsoir, salut à tous.
Salut Thomas,
merci d'être avec nous. Comment vas-tu?
Salut Thomas. Bon, ça va, anniversaire demain. Alors, si.
C'est par ton fou, mec.
Voilà. Me faire gagner, ce serait sympa.
Ok. Anniversaire demain, on trouvera un t-shirt de l'after.
Bon anniversaire
à t'offrir, même si tu perds. Voilà, c'est annoncé.
Ah, ah, aussi, ah
quelle classe, ouais, classe.
Ça te fait quel âge?
Ça te fait quel âge? Enfin, quelle classe? 33.
33.
L'âge de Gabriel Jesus.
C'est mon âge aussi, c'est ouais, l'âge du bon mec.
L'âge de Gabriel Jesus, ouais. Elle est bonne. Bref, on accueille pour ce quiz le joueur autoproclamé le plus malhonnête d'MPG. Ah, ouais. Un garçon dont tout le monde dit que depuis le parcours des Malgaches à la CAN a changé et pas en bien. Arthur Robert.
C'était déjà une ordure avant.
Bonsoir,
en plus, hein.
Messieurs. Par contre, il faut que Thomas choisisse quelqu'un. Hein. Il va pas rester tout seul. Hein.
Thomas, tu joues avec qui?
François, je crois.
Ah, François.
Et t'es même pas
François.
Même.
Avec François.
Vu ma performance d'hier soir, c'est vraiment me faire beaucoup d'honneur.
Thomas, c'est parti.
Et Arthur, tu fais quoi, toi? T'arbitres?
J'arbitre, je pose des questions.
Arbitre,
eh oui. Arthur, l'escroc, l'homme le plus intègre de la rédaction.
Attends. Du coup, il y a trois équipes. Je suis en équipe avec Damien.
Il y a quatre équipes.
Ah bah non, on fait trois équipes de deux.
Non, quatre équipes.
Mais non, parce que les auditeurs
viennent d'équiper. Oh, mais donc
les auditeurs, ils peuvent pas jouer.
Messieurs, attention.
Oh, il est rigide.
Le quiz. Ils peuvent pas jouer.
Sur la Ligue 1, les 10 dernières années sur la Ligue 1.
Oh là là là.
Nul. Vous êtes prêts?
Nul, c'est nul déjà.
Qui est le meilleur buteur de Ligue 1?
Zlatan.
De la saison 2010-2011?
Zlatan.
Moussasso.
Moussasso. T'as dit Moussasso?
Léane.
C'est Léane. Donc, un point pour l'équipe Jonathan Léane. Deuxième question. Lors de la saison 2011-2012, un joueur a inscrit deux triplés en Ligue 1.
Menez.
Ederson. Qui est le joueur? Non.
Pagis.
Aubameyang.
Zlatan. Gignac.
Non plus. Je vais vous donner un Ederson. Indice, il a joué à Grenoble.
Giroud.
Non, c'est moi.
C'est moi.
Il y a Léane qui annonce qu'il a dit deux fois Giroud, mais vu que le producteur est ici en plateau pour faire le quiz,
on peut pas arbitrer. Suzanne, la réalisatrice qui peut trancher.
Suzanne, c'est à toi.
C'est Jonathan. Deux points pour Jonathan. Troisième question, messieurs.
Comme toutes.
Depuis 2010, qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 avec Bordeaux?
Brillant. Brillant.
Diabaté.
Qui?
Diabaté.
Cheikh Diabaté.
3 points de Cheikh Diabaté. 3 points pour l'équipe Macardy. Les gars, le quiz a débuté. Hein. Donc Timothée 0 points, Damien 0 points, François avec Thomas 0 points. Alors ça va être une enchère, messieurs, ça vaut 3 points.
Pas cette merde.
Enchère. Combien d'entraîneurs ayant entraîné Nantes depuis 2010, vous pouvez me citer? Combien d'entraîneurs passés par Nantes depuis 2010, vous pouvez me citer? Il y en a 11. On va débuter avec Jonathan. Combien tu peux m'en citer?
1.
Très bien. Timothée.
3.
3. Damien.
4.
4. François.
2.
5. 2. Non, tu es obligé d'aller au-dessus. Là, il y en a 5 qui a été donné.
Non.
Tu peux pas aller au-dessus. 5, très bien. Jonathan.
Allez, Jonathan, tu peux.
Jonathan, combien? Tu peux aller au-dessus ou pas? Allez, 5. 4. 3. 2.
Moi 5, Thomas
5. Mais non,
5.
Toi tu joues pas.
Non, je laisse.
Les auditeurs, vous comptez pas malheureusement parce qu'il y a internet. Là, ça peut tricher dans
tous les
sens.
Moi je laisse. Ouais.
Timothée.
Stratégique, je laisse.
5. Je laisse. Dire
tu laisses la main. Damien, c'est 5. À toi. 5.
Donc je dois en dire 5.
Tu dois en donner 5.
Derzakarian.
Derzakarian, c'est bon.
Vaïd.
Vaïd, c'est bon.
Je vais te dire Jean-Marc Furlan.
Jean-Marc Furlan, c'est bon. Il t'en reste deux.
Ouais. Je vais te dire.
Allez,
j'ai 5 plus là.
9, 8, 7,
Denouex, Louis Camis.
5. Alors, Denouex, c'est pas bon. 3 c'était avant. Ouais. Donc, c'est pas bon.
Et Louis Camis.
Un Italien.
Non, non. Gourcuff. Ouais.
Oui, il y avait Gourcuff.
Il y avait Gourcuff, il y avait Cardozo, Ranieri, Conceição, Girard.
C'est ça,
ouais,
les gars. Il y avait beaucoup de
joueurs. Il y avait ça, vous n'avez pas dit plus de 5.
C'est compliqué quand il y a la pression.
Je vais faire Shelby contre Cardozo, sinon j'aurais
pas su. Parce que je vais trouver ça, parce que t'as un dans le froid.
Du coup, il y a un choix, tu la supportes pas.
Ça, tu cours tout le monde.
Donc, ça donne 3 points à l'ensemble des autres équipes. Donc, je redonne les scores. Jonathan, avec Ryan, ça fait 6. Timothée, 3. Damien, 0.
François, attends, et Thomas, 3 points. Vas-y. Moi, j'avais dit 4, non 5, j'avais dit.
Non, t'avais dit 5.
Il y a quand même
Il y a quand même quelque chose à expliquer aux auditeurs. C'est l'occasion de le faire, on a un petit peu de temps. C'est que ça fait 3 ans que je suis dans cette boîte. Et moi, j'ai toujours pensé, par exemple, que le Kikadi et tout ça, les mecs se mettaient sur la gueule pendant l'émission pour faire le show. Mais en fait, quand tu joues avec des anciens pros.
Pas du tout.
Tu tombes sur des mecs d'une mauvaise foi qui sont amers. Damien à ma gauche, je le vois, est en train de s'agacer quant au règlement. Et je peux vous assurer qu'après les sorties de Kikadi et tout, les consultants sont toujours en train de se mettre sur la gueule. C'est impressionnant. Mmh. Ce n'est pas un jeu qu'on joue. C'est assez hallucinant.
Dimeco, Stephen Brun, on vous embrasse évidemment. Cinquième question. Lors de la dernière décennie en Ligue 1, quel joueur a inscrit le but le plus lointain?
Passe décisive, il en a parlé hier soir en plus.
Ah bah j'ai pas entendu, j'ai pas écouté. Monsieur. Moi j'écoute pas cette émission, je bosse pas ici.
J'étais pas là hier.
7 points pour l'équipe Jonathan Liane, 3 points pour Timothée, 0 pour Damien, 3 points pour François et Thomas. Sixième question. Quel est le joueur qui a réussi le plus de dribbles lors de la dernière
dernière?
C'est tout. Alors 8. 8 pour Jonathan et Léane, 3 pour Timothée. Damien, faut se réveiller là, 0 et 3 pour
Jonathan.
Messieurs, on va faire un kick à jouer. Je vais vous donner des noms de clubs pour trouver le joueur qui correspond. Sochaux, Lille, Dijon.
Martin,
c'était qui a dit Martin?
C'est Léane.
Bravo Léane, oui mon pote.
9 points du coup pour l'équipe Jonathan, Léane, 3 pour Timothée, 0 pour Damien et 3 pour François et Thomas. Huitième question. Depuis 2010, qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 pour Saint-Etienne?
Aubameyang.
Non.
Amouma,
bien sûr.
Amouma, c'est bon. Qui a dit Amouma?
Léane.
C'est Léane. Oui, 10. 10 points, 3 points pour Timothée, 0 pour Damien et 3 points pour François Manardo.
Bravo. Merci. François, pour tes 3 points, ça va donner une réponse.
Ah, sérieux, Thomas, t'es pas sérieux de dire bien joué Léane. T'es en train de jouer contre lui et tu lui dis
bien joué.
Ça va être un kick.
Il a son t-shirt, il s'en tape là, c'est bon.
Kick crack, messieurs, à 3 points en jeu. Les joueurs champions de France avec Montpellier en 2012. Ah. Les joueurs champions de France avec Montpellier en 2012. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc un kick crack, va falloir me dire à tour de rôle un joueur ayant été champion de France avec Montpellier en 2012. On va débuter par Damien.
3.
Mais non.
Non, c'est
non, chacun, non, chacun, pas une enchère. Chacun votre tour, vous me devez.
Jourdain.
Jourdain, c'est bon. François.
Belanda,
c'est bon. Jonathan.
Olivier Giroud,
c'est bon.
Hilton,
c'est bon.
Aït Fana,
c'est bon. François.
Camara,
c'est bon. Jonathan.
Gary Bocali.
Bocali, c'est bon.
Cabella,
c'est bon.
Congrès.
Non, c'est pas bon. Élimination.
Pas bon.
Ah, il arrive l'année d'après.
François. Attention, les auditeurs n'ont pas le droit de jouer. Hein. François.
Oui, François, c'est mon prénom.
10, 9,
allez, 5, 8.
Non,
c'est moi qui mets la pression ou pas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1.
Et toi, on te met la pression pour qu'ils mettent la pression.
Élimination.
La pression,
quoi. Jonathan.
Mapouyangamiwa,
c'est bon.
Outaka,
c'est bon. Il fallait le chercher.
Bien joué.
Outaka, c'est bon. Allez. Damien.
Elle est éliminée,
éliminé, c'est bon, autant pour moi. Du coup, c'est un tête-à-tête. Jonathan.
Merde.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1.
Le chien,
1.
Merde, là. Le chien,
éliminé.
Là, putain.
Éliminé.
Bravo, Sim.
Du coup, Timothée, il faut que tu m'en donnes un.
Si, il a déjà été dit.
Excusez-moi, je raconte pour les auditeurs. Ah, là, il y a une VAR qui est posée. On a Damien Péridel qui essaye de souffler des réponses à Timothée Mémon. Bon, Timothée, il faut que tu m'en donnes un.
Et Timothée, d'un œil, il dit non, mais on l'a déjà dit.
Tu sors, Périnel. Ça veut dire quoi, ça?
Alors là, je.
Le mec, le central, là.
Timothée.
Il continue.
Timothée.
Aïe. Le central, marocain, là. Le marocain, central.
3.
Déjà, il n'était pas marocain en plus.
2. 1. Allez, c'est terminé, personne ne marque de points là-dessus.
Il y a des
points.
T'as qui le gardien remplaçant?
Il y avait Pionnier.
Ah, Pionnier, c'est Pionnier.
Valère, le chien, c'est qui? Il manquait Bédimo. Il manquait Stambouli, les gars.
Stambouli. Et le
Mounier, il n'y avait pas Mounier. Jeune Champ. Non, il n'y avait pas Mounier. Il y avait Lacombe, Estrada.
Estrada.
Si, si, Camara, on l'a dit.
Camara, il était
Camara,
dit.
Camara, j'ai
dit. Il y a Geoffrey Dernis aussi. T'aurais pu le trouver. Geoffrey Dernis, c'était pour toi.
Qui jouait en 6, le Rebeu, qui était super fort.
El Khatari.
Voilà, c'est lui. Bah, il joue dans l'axe derrière.
C'est pas lui.
Non, t'as mis le Tunisien qui était.
Mais moi, je
le Tunisien, là.
El Khatari.
Ben Kalfala,
non. Les gars, il va falloir avancer si vous voulez rattraper l'équipe McCarthy, Leyan. Je rappelle les scores, 10 points pour Jonathan McCarthy avec Leyan, 3 points pour Timothée, 0 pour Damien et 3 points pour François et Thomas. 11e question, qui est le meilleur buteur du championnat de France encore en activité et évoluant en Ligue 1? Brillant, Jimmy Brillant, qui a dit ça?
Leyan.
Leyan,
bravo. Leyan, il est chaud.
Bravo.
Donc 11 points pour l'équipe Jonathan Leyan, loin devant les autres. 12e question, avec quel coach Marseille débute la saison 2015-2016?
Bielsa. Tiens Jonathan, pour toi celle-là.
Elle est là l'ouverture du score.
Bravo.
11 points pour l'équipe Jonathan Leyan, 3 points pour Timothée, 1 point pour Damien et 3 points pour François et Thomas. Une enchère, on va terminer là-dessus. Enchère donc pour 3 points, c'est pour l'honneur. Hein.
Ouais.
En chair, combien de joueurs ayant terminé meilleur passeur de Ligue 1 lors de la dernière décennie, vous pouvez me citer? Il y en a 10. On va débuter avec Timothée. Combien tu peux en citer?
3.
3. Damien.
Non, je laisse.
3, tu laisses. Très bien. François. Est-ce que tu peux aller au-dessus de 3?
Non.
Est-ce que tu laisses? Non, tu laisses. Très bien. Jonathan.
Moi, je laisse.
Tu laisses. Très bien.
Je suis peut-être un peu emballé là.
Allez,
on t'attend.
Je vais dire Atem Ben Arfa.
Non.
Eh ben,
c'est déjà perdu.
Au revoir.
C'est déjà perdu.
C'est réglé.
C'est réglé. Donc ça fait 14 points pour Jonathan et Leyan qui remportent le quiz.
Bravo Leyan. Bravo Leyan.
Timothée reste à 3 points. Damien, tu passes devant Timothée.
C'était stratégique tout ça.
Et François, deuxième du quiz. Avec 6 points. Les passeurs, Lucho González, 11 passes décisives. Martin Martin, 17 passes décisives. Eden Hazard, 15 passes décisives. Mathieu Valbuena, 12. James Rodriguez, 12 passes décisives.
J'allais dire Jean Breton.
Dimitri Payet, 16. André Di Maria, 18 passes décisives. Morgan Sanson, 12. Neymar, 13. Et TJ Savagnier,
les derniers.
Merci beaucoup, Arthur, d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir participé cette soirée, Leyan. Tu as gagné, donc tu as le droit de dire ton mot.
Un cadeau vient de venir sur le plateau, hein, peu importe. Mais
eh ben écoute, on va déjà t'envoyer un t-shirt de l'after, ça y a pas de problème. Et quand tu vas venir sur le plateau, on va essayer d'organiser ça. Il y a pas de souci. On vous embrasse, messieurs Thomas, Leyan. Thomas, bon anniversaire demain. On vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas que dans la vie, eh bien, le football n'est pas une question de vie ou de mort. C'est beaucoup plus important que ça. Bonne soirée à tous.
RMC, 21h30.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.